c'est l'heure. Bonjour, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir pour cette 5e édition du Livre sur les quais. Une rencontre qu'on pourrait penser improbable, et on va essayer de la rendre probable. Je vais vous demander d'accueillir Francis Lalanne. Et André Comte-Sponville. Pendant une grosse demi-heure, on va parler tous les trois de poésie et de philosophie. Ensuite, de quoi on vous donnera la parole. N'hésitez pas à la saisir. Les occasions sont rares de rencontrer les auteurs, donc profitez-en pour leur poser des questions. Et pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, moi je vais demander à Francis Lalanne de bien vouloir nous lire deux poèmes. Francis, okay. Avec un micro peut-être.
Un poème de mémoire, comme ça. Vous m'entendez, là ?
Excuse-moi, mais pour l'enregistrement, ce serait bien que tu aies le micro.
Pour l'enregistrement, d'accord. Donc, de mémoire, hein, puisque mon livre s'intitule « De mémoire amoureuse », je fais un petit effort de mémoire. Je ne crois pas qu'on aime. Je crois qu'on a peur. Peur de la mort, du vide, de l'incertitude. Je soutiens que l'amour et ses effets trompeurs ne sont que le remède à notre solitude. Je ne crois pas qu'on aime. Je crois qu'on est fait pour avoir des enfants qui vont se reproduire et que, dès lors, on nomme amour à cet effet l'instinct dont il procède et les mots pour l'induire. Je dis que par rejet de l'animalité qui nous rapproche aux fins de conserver l'espèce, on croit aimer pour croire en notre humanité. Et que c'est l'exception qui confirme les règles. Et donc le deuxième serait celui-ci.
Vous auriez à commenter déjà, André Comte-Sponville ? On attend le deuxième, d'accord, ça marche.
Combien oublieront l'arbre pour avoir le fruit ? Combien le détruiront, se détruisant eux-mêmes, car ils ne trouveront, lorsqu'il sera détruit, plus aucun arbre, et donc plus aucun fruit qui germe ? Ce n'est pas l'amour qui est le plus important. C'est l'être que l'on aime. C'est l'autre. C'est l'arbre. Et ceux qui veulent graver l'amour dans le marbre le font sur la dalle tombale qui l'attend. Ce n'est pas l'amour qui compte. Pardonne-moi, car je sais que l'amour est pour toi ce qui compte. Mais l'amour n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Ce qui compte pour moi, plus que l'amour, c'est toi. Voilà.
Merci Francis. André Comte-Sponville, vous publiez, c'est tout frais, c'est d'hier je crois, hein, « Ces choses tendres que la vie », un livre d'entretien avec François Livonnet. Et dans ce livre d'entretien, pour placer la barre très haut, vous dites... que la poésie est plus philosophique que l'histoire. Quand vous entendez les poèmes de Francis Lalanne, vous maintenez et vous signez ?
Oui, mais la formule n'est pas de moi, elle est d'Aristote. Alors, c'est quand même une référence. Oui, pour Aristote, mais j'en suis d'accord avec lui, la poésie est plus philosophique que l'histoire parce qu'au fond, l'histoire exprime une contingence. Il y a eu une guerre en 14-18. Il y aurait pu ne pas y avoir de guerre en 14-18. Pour une part, ça tient au hasard, aux circonstances de l'époque. Et donc, par définition, l'essentiel n'est pas là. Parce que l'essentiel, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité. Et donc, si on se demande, est-ce que l'amour existe ? On peut être dans la philosophie, si on le fait abstraitement, oui. Conceptuellement, par raisonnement, ou dans la poésie. Si on le fait... non pas en essayant de penser la chose, mais en se contentant, mais c'est pas rien, de la dire au plus près. Voyez. Donc voilà, je crois que la poésie et la philosophie ont ceci de commun, d'essayer de dire l'essentiel. là où l'histoire, mais qui a aussi sa grandeur, sa nécessité, mais où l'histoire raconte ce qui a eu lieu, mais presque par définition, ce qui a eu lieu doit toujours beaucoup au hasard, à la contingence, et donc l'essentiel ne peut pas s'y trouver au même titre.
Francis Lalanne, quand on se dit tu dans la vie, donc je vais lui dire tu, quand tu écris des poèmes comme ça, c'est quoi la recherche? C'est s'approcher de la vérité? C'est matérialiser sa pensée?
C'est agir dans le sens de mon imagination. Poieo, poiein en grec, c'est j'agis dans le sens de mon imagination. C'est-à-dire que l'idée pour moi d'agir est éminemment liée au principe poétique. D'ailleurs, on pourrait dire action lorsqu'on dit poésie. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai opté pour dire et pas simplement écrire. C'est-à-dire que pour moi, il y a une valeur et une fonction, j'allais dire, de transmission orale de ce que vous appelez à juste titre l'essentiel. Et puis, il y a tout d'un coup le moment où on se recueille, où on va chercher la vérité en soi et où c'est la main qui répond à notre pensée. Et ce moment-là est un moment éminemment dialectique. Je veux dire que c'est un mouvement comme ça qui va de l'oralité à l'écriture, de l'action à l'introspection. Et en cela, je pense qu'effectivement aussi la poésie rejoint la philosophie parce qu'elle a une valeur contemplative et qui est duale. C'est-à-dire, il s'agit pas simplement de réfléchir, mais il s'agit aussi de se réfléchir. C'est-à-dire que c'est pas simplement un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur de soi, c'est aussi un mouvement qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur de soi par la projection de sa pensée. Voilà.
Alors là on voit bien la proximité de la poésie et de la philosophie, mais je vais reprendre la définition que vous donnez de la philosophie dans votre livre d'entretien, André Comte-Sponville. Vous dites « La philosophie est une pratique théorique, mais non scientifique, qui a le tout pour objet, la raison pour moyen, et la sagesse pour but. » On peut presque dire ça de la poésie, finalement.
Non, parce que je ne crois pas que la poésie soit une pratique théorique. Théorique, ça veut dire abstraite, rationnelle, rigoureuse. La poésie est plutôt de l'ordre du dire que de l'ordre du concept. Par exemple, un poète que j'aime infiniment, qui est Jules Laforgue, il y a deux vers qui m'ont toujours beaucoup touché. « J'entends mon cœur qui bat. C'est maman qui m'appelle. » Il se trouve que Laforgue a perdu sa mère. Il avait, lui, 16 ans. Il était adolescent. C'est pas de la théorie, voyez. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas un argument. Il y a quelque chose qui est au plus près d'une émotion, alors qu'on peut trouver un peu mièvre. Pour certains, moi, ça me touche beaucoup. Voilà. « J'entends mon cœur qui bat. C'est maman qui m'appelle. » Ça, c'est de la poésie. Inversement, si on se demande... qu'est-ce que l'amour et qu'on essaye de le conceptualiser, je l'ai fait dans un livre qui s'appelle Le sexe ni la mort, on fait de la philosophie. Alors, je ne fais pas de hiérarchie entre les deux. Si j'en faisais une, disons que les poètes me touchent davantage. Oui. Mais on a besoin aussi de philosophes. Mais je crois que ce n'est pas la même chose. Alors, je te l'ai dit, il y a eu quelques poètes philosophes. Pas beaucoup, mais il y en a un au moins dont il faut saluer le génie, c'est Lucrèce. L'un des plus grands poètes latins, comme vous le savez, et en philosophie, disciple absolument fidèle d'Épicure. Et au fond, l'essentiel de ce qu'on doit d'Épicure, de ce qu'on sait d'Épicure, pardon, on le doit à Lucrèce. Vous savez que les textes d'Épicure ont presque tous été perdus. Ils n'ont pas réussi à traverser le Moyen-Âge, alors qu'inversement, la poésie de Lucrèce, sauvée par sa beauté, a réussi à être conservée, y compris par des moines horrifiés par ce qu'ils y trouvaient, mais malgré tout séduits par la beauté de la poésie. Mais c'est un peu l'exception. C'est l'exception parce que c'est vrai qu'entre les exigences de la poésie, c'est-à-dire du chant pour une bonne part. Vous savez, je crois que c'est Malraux qui disait, il y a deux sortes de poésie. Il y a les poésies qui se chantent et les poésies qui se gravent dans le marbre. Aragon, ça se chante. René Char, ça se grave. Voyez, et c'est assez vrai. Et dans les deux cas, la philosophie se prête peu à ça. La philosophie, ça ne se chante pas parce que c'est trop lourd, si j'ose dire. Et ça ne se grave pas parce que c'est trop long. Parce qu'il faut du temps pour penser, pour s'expliquer, pour argumenter, pour critiquer, pour réfuter.
Un poète, il n'a pas besoin d'argumenter. Il dit au plus court ce qu'il est, ce qu'il vit, éventuellement ce à quoi il croit, mais sans prendre le temps, évidemment, de l'argumenter. Sinon, alors, sauf à faire de la poésie philosophique à la Lucrèce, mais c'est encore une fois l'exception, sinon, je crois qu'on va perdre en émotion ce qu'on va gagner en pensée. Au fond, voilà, pour le dire d'un mot, je crois que la poésie est davantage du côté de l'émotion, la philosophie est davantage du côté de la pensée. C'est pourquoi il est particulièrement précieux parfois qu'un philosophe sache nous émouvoir, ça arrive, et qu'un poète nous donne à penser, ça arrive aussi.
Alors, je vais rester un instant sur cette question théorique, parce que Francis est un grand adepte de la poésie de forme classique. Donc il y a un moment, quand on est dans la forme classique, il y a une forme de théorique et de la technique, hein, d'une certaine manière. Francis, est-ce que quand on écrit en alexandrin, par exemple, où il faut qu'il y ait ces fameux 12 pieds, c'est une contrainte de l'ordre théorique ?
Bah, pour moi, la contrainte est libératoire. Moi, je suis libéré par la contrainte. Donc, moi, pour construire une maison, il faut des fondements, il faut une architecture, tout ça. Non, mais en fait, pour répondre à ta question et rebondir sur ce qui vient d'être dit, je voudrais reparler de deux choses, en fait. Finalement, le chant et les rapports de la glose avec le chant. En fait, tout ça est historique. Vous disiez, à juste titre, qu'il y a des philosophies poétiques. Vous citiez Lucrèce, et effectivement, on peut se dire que la philosophie, c'est le contenu. La forme est celle de la pensée qui se développe. Il n'y a pas de structure en poésie, il y a une structure. Et s'il y a une structure en poésie, même dans la déstructuration, hein, dans le vers libre, il y a une rigueur autotechnique malgré tout qui se forge. Mais moi qui pratique les formes classiques, les formes fixes ou semi-fixes, cette structure, elle favorise quoi ? Elle favorise deux choses. Elle favorise ce que George Sand appelait l'art de la synthèse, en parlant de la poésie, que la poésie, disait George Sand, c'est l'art de la synthèse. Et je dirais, pour reprendre la phrase de Prévert, qui disait « la poésie, c'est le plus joli surnom donné à la vie, ce que vous appelez l'émotion ». Donc, il faut mettre dans une réflexion, car c'est une réflexion, un poème, de l'émotion, une idée qu'on développe succinctement, et il faut l'inscrire dans un chant. C'est ça, le travail du poète. Alors, ce travail, il s'est décliné dans l'histoire de manière chronologique. Il y a eu d'abord, dans l'Antiquité, les grands chants, hein, qui étaient la transmission orale de l'histoire par le chant, avec l'invention du rythme et de la rime comme moyen mnémotechnique de transmission orale, et pas comme, je dirais, nature et valeur intrinsèque de l'art poétique. Puis Aristote, avec le De Poietikes, va essayer de ratiociner sur tout ça. Mais surtout, on s'aperçoit que le ressac de tout ça va renvoyer à cette vision ancienne et antique de la poésie ce qu'elle est devenue au Moyen-Âge, en tout cas en Europe. Vous savez qu'on a eu du retard, nous, quand même, à un moment donné, au moment de l'âge de cuivre, au début de l'âge de bronze, on est encore en préhistoire, pendant que l'Orient est en train de répandre l'écriture, puis tout ça a été une balance, mais à un moment donné, il y a eu ce fameux Moyen-Âge, où la poésie s'est transmise par le chant. C'était la ronde villageoise. Le geste devenait un mot, on se donnait un mot, il fallait le retenir, on mettait un rythme, parfois de la musique, et on mettait des rimes pour se rappeler des mots qu'on se donnait. Mais il n'y avait pas de glose. Il y avait simplement le souci de trouver des sons qui se répondent. Et on était dans une poésie de résonance, résonante, chantée, résonante. Puis arrive le premier XVIe siècle avec Clément Marot, François Ier, Marguerite de Navarre, élève de Jean Marot, et cette espèce de passage par le rondeau au sonnet. Et en fait, on voit apparaître la pensée et la réflexion et la recherche, j'allais dire, de la glose en poésie. On la voit apparaître avec le nombre de rimes figurant dans un poème. Quand on est au Moyen-Âge, on travaille sur deux rimes la plupart du temps, ou sur des formes layées, c'est-à-dire avec deux rimes ou trois, mais sur des répétitions qui reviennent en rimes plates et répétées. Puis, on va passer de deux rimes à trois ou quatre. Et puis arrive le sonnet. Le sonnet, dont la forme élémentaire que vous connaissez, qui est ABBA, ABBA, CC, DED ou DEDE, voyez, on part simplement d'une forme poétique qui est sur une rime A et sur une rime B, à une forme poétique qui va d'une rime A, une rime B, une rime C, une rime D, une rime E. Et là, plus on rajoute des rimes, plus on s'octroie la possibilité, la faculté de dire quelque chose à l'intérieur de cette forme chantée. Et là, on va passer d'une poésie de résonance à une poésie qui résonne, une poésie de raison. C'est-à-dire, on a un raisonnement qui va résonner. Voilà. Et le mariage de cette résonance et de ce raisonnement, ça va devenir la poésie pas du 18e, parce qu'il n'y a pas de poète au 18e, mais pour les deux qui avaient, on leur a coupé la tête très rapidement, le même jour d'ailleurs, en 1793, c'était Florian et André Chénier. Mais après, c'est justement ce mariage de la recherche du raisonnement et de la recherche de la résonance mariée dans une forme courte et donc synthétique qui a été la poésie que nous connaissons aujourd'hui et dont nous parlions, c'est-à-dire une poésie finalement qui est un genre qui réunit à la fois le désir de dire et le désir de chanter.
Alors évidemment, quand on dit désir de dire, désir de chanter, on sait que tu chantes, bien sûr. J'ai découvert, André Comte-Sponville, ce que vous deviez à la chanson, notamment à Georges Brassens et à quelques autres, même si aujourd'hui vos goûts vont plutôt vers Schubert ou dans le pire des cas, si j'ose dire, vers Keith Jarrett. La chanson, aujourd'hui, c'est une forme contemporaine de poésie, pour vous ?
Oui, c'est une forme contemporaine de poésie, mais entre autres, parce que justement, elle a gardé la forme classique. Hein. C'est-à-dire que, mis à part le cas d'Aragon, la poésie savante en France a renoncé aux vers réguliers. C'est-à-dire que si vous lisez Saint-Jean-Perse, René Char, Paul Éluard, et ces trois poètes que j'aime beaucoup, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, Saint-Jean-Perse ou René Char, enfin, René Char, c'est de la prose, Saint-Jean-Perse, c'est des vers libres, c'est-à-dire qu'il n'y a ni un nombre de pieds constant et il n'y a pas de rime. Et Éluard, c'est des vers parfois réguliers, mais là encore, presque toujours sans rime. Et du même coup, la poésie est quand même devenue plus difficile à mémoriser, parce que la rime, vous avez raison, est d'abord un système mnémotechnique. Elle chante moins. Et donc, on aboutit à la situation bien triste d'aujourd'hui, où il y a moins de lecteurs de poésie contemporaine que de poètes contemporains. Les poètes contemporains, non mais je plaisante pas, se comptent en milliers. Hein, on connaît leur nom, c'est marqué à la BN et tout. Les lecteurs se comptent en dizaines pour chacun d'entre eux. Alors que la chanson, parce qu'elle a gardé la rime, parce qu'elle a gardé le rythme, parce qu'elle a gardé la prosodie, arrive à toucher. Alors c'est ça le miracle de Georges Brassens, effectivement, qui a illuminé ma jeunesse, dont Dijon a été mon premier professeur, non pas de philosophie, mais de morale, parce que Brassens était un moraliste, mais c'est vrai aussi de Ferré, c'est vrai de Brel, c'est vrai des poèmes de Louis Aragon, alors eux, rythmés, avec une prosodie classique, mais quand même formidablement popularisés parce qu'ils ont été mis en musique par Jean Ferrat, et c'est vrai, et très habilement, très joliment mis en musique et chanté par Jean Ferrat. Et Léo Ferré. Mais moi, j'ai toujours été plus sensible pour ce qui est d'Aragon aux versions de Jean Ferrat. Et évidemment, quand il y a à la fois la poésie avec tout ce que le rythme apporte, ce que la prosodie apporte, ce que la rime apporte, et la musique qui vient en plus, alors effectivement, la musique nous touche considérablement. Et c'est vrai que, après, ça dépend des goûts et un peu de la génération. C'est vrai que maintenant, je n'écoute plus de deux chansons parce que je travaille pas en musique, donc je travaille beaucoup, et le matin, je mets des radios d'information. Donc, j'ignore à peu près tout de la chanson contemporaine, mais quand j'étais jeune, c'est vrai que des gens donc comme Brel et Brassens, mais Barbara, Nougaro, Edith Piaf, ont compté énormément.
En même temps, c'est des classiques aujourd'hui, hein, ces chanteurs-là.
De la musique classique.
Non, j'ai bien dit des classiques de la chanson. Francis, toi qui écris de la poésie et des chansons, est-ce que c'est la même chose ?
Non. Enfin, attention, on emploie le terme poésie de manière abusive, hein, parce que là, il y a de la poésie en toute chose, il y a de la poésie dans un tableau, il y a de la poésie au théâtre, enfin, dans tous les. Mais c'est depuis le De Poieticis d'Aristote qu'on a fait une sorte de métonymie, qu'on a pris la partie pour le tout et qu'on a appelé l'art d'écrire en vers la poésie. Mais bon, la chanson, pour moi, en tout cas, c'est un genre différent que celui de la poésie écrite. C'est un genre éminemment oral. Moi-même d'ailleurs, qui suis les deux, qui suis un chansonnier et un poète, lorsque j'écris un poème, que le mot me vient sans une note pour l'accompagner, je ne prends jamais la plume pour l'écrire. Je veux rester dans l'oralité, être un aède et fonctionner en mémoire et en transmission orale. Et donc, la chanson n'est écrite que par un autre lorsqu'il faut la déposer à la SACEM, voilà, pour les papiers administratifs, mais pendant tout le temps de la conception de l'œuvre, je ne l'écris pas. En revanche, lorsque un mot me vient sans les notes de musique, et donc que ça va devenir un poème, je confie cette pensée à ma main. C'est ma main qui écrit. Et c'est vraiment pour moi une écriture totalement différente. Et pour reparler du chant et de la prosodie dont vous parliez, effectivement, les formes et structures classiques permettent finalement à la poésie écrite de retrouver un chant textuel par les rythmes, par la scansion et par le retour des rimes. Il y a une forme de mélodie textuelle qui va s'exhaler de cette écriture et qui disparaît effectivement quand la poésie raisonnée, plus que résonante, se veut l'apôtre du dire, du penser, justement de l'expression philosophique de la pensée d'une manière plus synthétique que celle qui est l'apanage du philosophe. Et donc, pour moi, c'est très clair, la mélodie est une structure en soi, qui d'ailleurs peut accueillir des vers hétérométriques, c'est-à-dire qui n'ont pas le même maître, et alterner des longs vers avec des petits vers, etc. etc. Mais la mélodie, quelle que soit la longueur des vers et le retour des rimes, fournit cette structure idéal qui permet justement au chant de s'épanouir. Lorsqu'il s'agit de l'écriture, d'un poème, d'une poésie écrite, oui, il y a une recherche soit hétérométrique, soit isométrique régulière, avec des retours de rimes identifiables. Pourquoi ? Parce que justement, ce que la poésie n'a plus grâce à la mélodie, elle le retrouve par une construction, j'allais dire, abstraite de la mélodie que je qualifie de textuelle et qui finalement vient en compensation de l'absence de musique. Voilà.
Je vais rester avec toi une seconde et André Comte-Sponville va me voir arriver avec ma grosse question. Est-ce que pour toi, Francis, la poésie doit apporter du plaisir au lecteur ou si peut-être tu n'y penses pas au moment de l'écrire, elle t'en apporte à toi du plaisir ?
Je pense que oui, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour la philosophie, l'amour de la sagesse, le plaisir de dénoncer la sagesse telle qu'on souhaite la définir, c'est aussi quelque chose qui doit nous apporter du plaisir. Penser doit nous apporter du plaisir, exprimer la pensée doit nous apporter du plaisir. Enfin, je ne veux imposer rien à personne. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je recherche avant tout, y compris lorsque j'ouvre un livre de poèmes, le livre d'un philosophe, je recherche cette espèce d'émulsion de la pensée qui va me procurer le plaisir de penser. Voilà. Maintenant, je dirais peut-être s'il fallait établir une différence entre le plaisir que procure la sagesse ou l'énoncé de la sagesse et celui que procure le chant de la pensée, je dirais que on pourrait peut-être dire que si la poésie peut être philosophique et la philosophie peut être poétique, je dirais que la poésie, c'est... c'est le fond exprimé par la forme, et la philosophie, ce serait à ce moment-là la forme exprimée par le fond.
Une œuvre qui ne tendrait à apporter aucun plaisir à personne, pas même à son créateur, en quoi serait-elle artistique ? C'est ce que vous écrivez, en tout cas c'est ce que vous répondez à la question qui vous est posée. Donc pour vous, la notion de plaisir est intimement liée à la dimension artistique.
Oui, alors elle est d'abord intimement liée à l'humanité, c'est ce que dit Freud, ce que Freud appelle le principe de plaisir, c'est qu'au fond, tout ce qu'on fait tend à nous permettre de jouir le plus possible et de souffrir le moins possible. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Alors, vous aviez pensé qu'il y aurait davantage de plaisir ici qu'au cinéma, à la piscine ou chez vous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous en savez ? Ben, j'en sais que vous êtes ici. Donc ça vaut pour tout le monde. Pour le poète, le philosophe. Mais en revanche, l'art, me semble-t-il, accorde au plaisir une prime particulière. C'est-à-dire qu'une belle musique, un beau tableau, un beau poème, ça fait plaisir. Je dirais presque, c'est jouissif en quelque chose. Trois pages de Kant, 12 pages d'Aristote, c'est beaucoup moins jouissif. Hein.
Mais je vais essayer de bien
Attendez,
comprendre.
Non. Autrement dit, il ne faut pas oublier que la philosophie est un travail, y compris souvent pour le lecteur. Alors que la poésie est assurément un travail pour le poète, quoique certains ont tellement de facilité que ça vient comme ça, et souvent les plus grands. Non, mais souvent les plus grands, c'est la belle formule d'Éluard qui m'a toujours fait penser à Mozart. Éluard écrit « J'ai la beauté facile et c'est heureux ». Et c'est formidable parce que c'est très vrai d'Éluard, c'est-à-dire qu'il a trouvé vraiment la phrase qui qualifie son art, et ça me fait penser à Mozart parce que Mozart a la beauté facile et c'est heureux. Et moi je crois beaucoup, alors je suis pour le plaisir comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais spécialement en art. Or à nouveau, la modernité artistique a eu tendance à oublier cette dimension du plaisir, vous voyez, qu'on appelle au fond la beauté. Parce que la beauté c'est quoi? Bah, c'est ce qui nous procure ce plaisir particulier qui ne tient pas à la consommation, comme boire le verre d'un bon vin ou croquer une pomme, mais qui tient à la contemplation, à l'écoute. Vous voyez. Et ça, cette dimension-là, la modernité l'a souvent oublié. Je me souviens, petite anecdote, il y a 30 ans de ça, Beaubourg venait d'ouvrir, je vais voir une exposition Malevitch de Beaubourg, je le raconte dans mon livre. Alors Malevitch est un peintre qui était d'abord un peintre figuratif, à mon avis très médiocre, et puis qui est devenu un peintre d'avant-garde. Alors la toile la plus célèbre de Malevitch, c'est un carré blanc sur fond blanc. Imaginez une toile, vous la peignez en blanc, et sur ce blanc-là, vous faites un carré blanc, d'un blanc très légèrement différent pour qu'on voit la différence. Et comme j'étais inscrit en licence d'histoire de l'art à l'époque, j'avais suivi une visite guidée par un professeur d'histoire de l'art, enthousiasmé par le carré blanc sur fond blanc. Moi, j'étais un peu perplexe quand même, parce que attention, c'est pas un beau blanc comme Soulages peut faire un beau noir. Hein, non, là, c'est un blanc terne, plat, sans intérêt. Le contraire d'un Soulages, si vous voulez. Et donc, je demande à notre professeur d'histoire de l'art, mais sincèrement, est-ce que vous trouvez ça beau? Il me regarde comme si j'étais le dernier des crétins, il me dit, moi, ça, vraiment, c'est pas la question. Moi, je trouvais que c'était la question. Autrement dit, voilà, le carré blanc sur fond blanc, ça ne me procure pas de plaisir. Ça peut me donner à penser. Alors, les intellectuels vont faire des commentaires très, très, très exaltés là-dessus. Pour la petite histoire, je termine l'anecdote. Donc, on était un groupe comme ça d'étudiants, et puis il y a une jeune fille qui dit à notre guide, mais au fond, Malevitch, si au lieu d'un carré blanc sur fond blanc, il avait fait un point blanc sur fond blanc, est-ce que ça n'aurait pas été encore plus fort? Et alors le maître, le professeur, exalté par leur remarque, dit « Oui, vous avez raison, ça aurait été encore plus fort. » Mais vous voyez, ajoute-t-il, même les plus grands génies, il y a des moments, devant leur propre audace, ils reculent. Eh bien voilà, conclut-il, le point blanc sur fond blanc, Malevitch, il n'a pas osé. Oui. On ne va pas faire un débat sur l'art contemporain, mais sur le plaisir.
Vous êtes sévère hein, sur l'art contemporain.
Pour dire la même chose de la musique contemporaine, pas toute la musique contemporaine, mais une partie de la musique contemporaine, Boulez et la suite, qui en effet ne procure pas de plaisir. Moi j'ai vu des peintres me dire je fais pas des belles images pour mettre dans ton salon. Bon bah très bien, si tu fais des choses atroces, je les mettrai pas en effet dans mon salon. Et ça je crois que c'est un peu un problème de l'époque, et que du même coup effectivement les chanteurs, les romanciers, aussi les cinéastes, parce qu'eux ils ont besoin pour faire un second film que les spectateurs aient du plaisir à les voir. On retrouve du plaisir dans d'autres arts, mais les arts précédemment les plus prestigieux, justement la poésie, la musique savante, les arts plastiques, la peinture, la sculpture, se sont exagérément coupés de cette exigence de faire plaisir. Vous savez ce que disait Molière, la première règle est de plaire. Ce que Poussin, le peintre, appelait, Poussin disait, le but de la peinture, c'est la délectation. Et c'est vrai qu'une toile de Poussin, comme une toile de Chardin, de Fragonard, de Renoir, de Monet, c'est délectable. Vous voyez. C'est de moins en moins vrai, et je trouve ça dommage, et c'est pourquoi dans ce livre, il y a un chapitre sur l'art, je plaide entre autres pour deux choses, mais qui sont liées. Un, la réconciliation des artistes et du grand public. Moi, j'en ai marre des artistes prétendument d'avant-garde qui n'existent que parce qu'ils sont subventionnés par l'État, mais que personne n'irait jamais voir. Il n'y aurait pas un concert de musique contemporaine savante en France sans les subventions de l'État. Il n'y en aurait pas un seul, parce que le public n'y va pas. Donc il faudrait que les... Je plaide pour que les artistes contemporains se réconcilient avec le grand public, mais ça ne peut se faire, deuxième point, que s'ils consentent à redonner du plaisir, de la délectation. Savoir plaire au public, pour un artiste, ça n'est pas déchoir, je crois que c'est ta principale fonction. Alors, plaire, si possible, sans démagogie, sans mensonge, sans illusion. Et c'est pour ça que les plus grands artistes sont justement ceux qui savent conjoindre le plaisir et la vérité.
J'ai vu que Francis a saisi son micro, donc il veut réagir.
Oui, simplement pour dire que, je m'en excuse, mais en ce qui me concerne, j'éprouve du plaisir à lire 3 ou 4 pages de Kant. Et le plaisir que j'éprouve est le plaisir qu'on éprouve par l'entendement. C'est-à-dire que quand une pensée nous apporte une prise de conscience, le moment où on a cette prise de conscience, moi, pour moi, je l'assimile à un moment de plaisir. Alors effectivement, sur la forme, on peut dire que ce n'est pas une forme dont l'objet est de séduire par sa forme. Mais quand je disais que pour moi la philosophie c'est la forme exprimée par le fond, tout d'un coup quand le fond nous apparaît et que tout d'un coup on réalise quelque chose et qu'on se met à penser à quelque chose et à comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris parce que quelqu'un nous l'explique de manière savante et pertinente et avec une pédagogie d'ailleurs qui souvent effectivement est plus ou moins éloquente, mais moi lire l'œuvre d'un philosophe, comme vous d'ailleurs, quand je vous lis, j'éprouve ce plaisir, le plaisir de comprendre, et qui est un vrai plaisir. Pour le reste, je suis pas loin d'être complètement d'accord avec ce que vous dites, parce qu'encore une fois, dans l'art contemporain, il y a aussi des choses qui peuvent procurer du plaisir. Mais effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut réconcilier les artistes avec le public, car le public est intelligent, il n'est pas bête. Et souvent, on reproche à un artiste populaire, finalement, on lui reproche d'être aimé. Parce que on est dans un siècle où finalement on associe le fait d'être populaire à une vision péjorative du peuple qui ferait de lui l'anti-savant. Il y aurait les savants, les gens qui savent, et qui sont une minorité, et la grande majorité des gens qui ne savent pas. C'est exactement le contraire. Je pense que
si tu permets, Francis, oui. André Comte-Sponville en parle très joliment à propos d'Éric Emmanuel Schmitt dans ce livre d'entretien, où il y a une très jolie anecdote, si vous voulez la raconter. C'est que Éric, que Francis a joué d'ailleurs,
puisqu'il
a joué Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric Emmanuel Schmitt dit finalement, pour la plupart des critiques et des gens, je ne fais plus du théâtre, mais des succès.
J'en parle dans le livre parce qu'on m'interroge sur mon propre succès. C'est vrai qu'en France, peut-être moi en Suisse, je ne sais pas, mais en France, on vous pardonne beaucoup mieux vos échecs que vos succès. Le succès agace. Je me souviens, je l'ai vécu avec le succès un peu hors norme du petit traité des grandes vertus. Avant, je n'avais que des bonnes critiques, peu de critiques, mais toutes bonnes. Et après, je n'ai pas eu que des mauvaises critiques, heureusement, mais j'en ai eu quand même beaucoup de hargneuses, haineuses. Bon. Et 3-4 ans après le succès du traité des grandes vertus, mon ami Christian Bobin publie un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Le Très Bas, qui est un livre sur Saint-François d'Assise. Ce qui est à la fois le plus difficile des sujets, parce que faire un livre sur la sainteté est le plus beau des saints. François d'Assise. Succès considérable. Je dis à Christian Bobin, méfie-toi, tu vas voir, la haine s'accroît toujours en proportion du succès. Et le malheureux Christian n'y a pas échappé. Il s'est fait accabler par toute la presse, ou presque toute la presse parisienne, avec beaucoup d'injustice et de sottise. Et donc, mais pareil après pour Michel Onfray, le très grand succès de son traité de la théologie. Alors, tu sais que c'est pas le même genre que Bobin, c'est pas le même genre de beauté, je vous l'accorde, mais il se trouve que ce sont malgré tout deux amis à moi, sinon deux amis entre eux, je pense pas qu'ils se connaissent. Mais pareil, depuis ce succès, Onfray, qui était plutôt positivement perçu par la presse avant, est devenu un petit peu la tête de Turc d'une partie de l'intelligentsia parisienne, rôle dans lequel il m'a succédé, ce qui au fond me convient assez bien. On verra qui est le prochain. Alors je parlais de ça avec Éric Emmanuel Schmitt, personnage pour qui j'ai beaucoup d'estime et de sympathie, qui a quand même fait plusieurs chefs-d'œuvre, notamment l'évangile selon Pilate. Moi, il n'y a pas que ça, mais je veux dire, oser faire un bouquin en deux parties. Première partie, monologue de Jésus sur le mont des Oliviers. Faut oser, si vous voulez. Deuxième partie, la même histoire racontée par Pilate, qui écrit à son meilleur copain resté à Rome, et dans les deux cas, c'est un chef-d'œuvre absolu. Or, lisez la presse sur Eric Emmanuel Schmitt, on le traite plutôt avec condescendance, et un jour, on parlait de ça avec Eric Emmanuel, il me dit, à lire les critiques, c'est plus du théâtre que je fais, c'est du succès. Alors qu'il est par ailleurs l'auteur de théâtre le plus joué au monde. Et c'est quand même pas un hasard. Et le fait est que dès sa première pièce, Le Visiteur, il y en a eu beaucoup d'autres après, mais on voyait bien que ce type a un talent exceptionnel. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, le succès agace, le succès déplaît. Et puis surtout, il y a cette espèce de condescendance absurde. Si le grand public aime ça, ça peut pas être vraiment très bon. Le grand public, contrairement à la tarte à la crème qui veut nous faire croire que tous les artistes ont été des génies méconnus, le grand public a adoré Mozart. Il a adoré Mozart. Quand Mozart va à Prague, les gens dans la rue sifflent des airs de Mozart. Il n'y avait pas de disque, c'est pas la radio. Voilà, et donc les gens ont adoré Victor Hugo. Il y avait 1 million de personnes dans la rue quand Victor Hugo est mort. Ça ne retire rien au génie de Victor Hugo. Voilà, et donc réconcilier les artistes avec le grand public, ça veut dire aussi arrêter de reprocher à ceux qui ont du succès d'en avoir. Je me souviens, première fois, j'ai entendu le nom, ou toi, j'ai entendu parler vraiment d'Eric Emmanuel Schmitt. Il faisait une émission de radio à RTL et il avait demandé bizarrement à ce que j'y participe. J'étais pas libre, j'étais en province, j'étais une conférence, donc je me dis, c'est pas grave, on va le faire par téléphone. Donc, ils m'appellent, je les appelle eux, je n'ai toujours pas téléphone portable, je les appelle à l'heure de l'émission, et donc j'avais pris un transistor pour écouter ce que disait Eric Emmanuel Schmitt. Et donc le journaliste me demande, mais pourquoi avez-vous invité André Comte-Sponville? Alors Eric Emmanuel dit des tas de choses gentilles sur moi, mais je n'ai retenu qu'une phrase, il disait, Comte-Sponville a le courage du succès. Ouais. Ça m'a frappé, c'est la première fois qu'on me disait ça, et je crois qu'on peut le dire d'Eric Emmanuel, vous voyez, c'est-à-dire que il faut avoir un certain courage pour oser s'adresser au grand public, d'autant plus qu'on peut savoir d'avance qu'un certain nombre de collègues vous le reprocheront.
Et bien, alors, c'est pas Francis Lalanne qui va vous dire le contraire, parce qu'il en a pas mal ramassé aussi. Et puis ça va pas s'arranger, Francis, puisque tu viens d'avoir le prix de poésie à la Forêt des Livres.
Je te remercie. Quand j'aurai des petites inquiétudes à mon sujet, je t'appellerai.
Ah, oui, oui. Ouais.
Sarah Bernard disait la recette du théâtre, c'est la recette. Simplement, je pense qu'il est effectivement. Je pense qu'il y a un projet. Il y a un projet de contrôle des individus dans la société et de globalisation de l'être humain. Effectivement, l'art, sous toutes ses formes, que ce soit la forme philosophique, la forme dite poétique, est un moyen, finalement, de développer la pensée individuelle, par l'entendement ou par la beauté. Et il est donc nécessaire que, lorsque la beauté agit, il est donc nécessaire de l'abîmer, la beauté. Il est donc nécessaire, lorsque l'entendement agit, de l'abîmer. Et donc, il est donc nécessaire de créer une vision de l'artiste qui soit une vision ésotérique. C'est-à-dire, l'artiste, c'est celui qui dit ce que personne ne comprend. C'est celui qui a accès à la beauté que personne ne voit, parce que personne ne voit et personne n'entend quand quelqu'un est personne. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, là, pour être grave 5 minutes, contre lequel je crois effectivement que nous autres, philosophes et artistes, nous avons un rôle à jouer. Et quand vous dites que il faut réconcilier, oui, les artistes avec le public, c'est-à-dire il faut que les artistes continuent à donner de la beauté et de l'entendement, et non pas le contraire. Je pense qu'il y a un moyen simple et élémentaire pour y parvenir, c'est la transmission de l'art, des règles de l'art, du techné, pour reprendre un mot grec. Les anciens nous ont transmis un savoir-faire, un savoir-être artiste, penseur. Il y a des techniques ancestrales qui permettent la réalisation de la beauté et de l'entendement. Je voudrais citer simplement une anecdote. Picasso, un jour, est pris à partie par un milliardaire qui lui demande un tableau. Picasso monte dans son atelier avec le milliardaire, prend une toile blanche, ne fait pas un carré blanc sur la toile blanche, mais il fait un cercle noir. Picasso était très, très probablement le seul peintre de l'histoire qui était capable, avec sa main, de tracer un cercle parfait que seul un compas aurait pu tracer. Et donc il donne le cercle noir sur le tableau blanc au milliardaire, qui lui demande le prix, bien sûr après avoir attendu que Picasso signât le tableau. Et Picasso lui dit 7 millions de dollars. Et il lui dit 7 millions de dollars pour 50 secondes. Et Picasso lui répond 50 secondes et 65 ans de travail. Et je crois que vous parliez du travail, il faut reparler du travail. Le travail est une joie, le travail est quelque chose qui nous élève, et le travail est aussi quelque chose qui nous relie. Ma religion personnelle, c'est le travail, celle qui pour moi me relie le plus à l'autre. Quand je travaille mes textes, quand je recherche la manière la plus harmonieuse d'exprimer ma pensée ou ma vision de la beauté, c'est par le travail que je veux passer et par les techniques que nous ont transmises les anciens pour que la beauté de l'art soit transmissible de manière pérenne. Et je crois que ces techniques, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est dans un monde dit moderne qu'elles n'ont plus leur place. Au contraire, pour moi, elles sont un des viatiques qui nous permet d'assurer la pérennité de la transmission de la beauté et de l'entendement.
Merci. On l'a promis, on tient donc la promesse. La parole est à vous. Question pour Francis Lalanne, pour André Comte-Sponville. Le plus difficile étant de poser la première, qui prend la deuxième? La troisième pour monsieur. Formidable.
Ne croyez-vous pas que si les médias feraient l'effort peut-être tous les jours de donner un petit poème au lieu de donner que du moderne, disons, une pensée, la radio suisse romande le fait, quoi, le matin, ça serait plus facile à transmettre. Parce qu'autrement, justement, les gens ont l'impression que c'est mièvre d'aimer la poésie ou de beaux poèmes. Personnellement, j'adore ça, mais pour pouvoir transmettre aussi à la jeune génération.
Merci. Qui veut répondre ou donner son avis? André Comte-Sponville.
Non, mais on peut toujours tout mettre sur le dos des médias, mais enfin bon... Ils sont là pour ça. Tous les grands poètes sont disponibles en livre de poche, si vous voulez ça. Pour 2 euros, dans la collection Librio, vous avez à peu près tous les sommets de la poésie classique, mais jusqu'au 19e et début 20e. Voilà, donc si les journaux en parlaient davantage, ça serait mieux, je suis pas contre, au contraire, je suis pour, vous voyez, mais il y a un moment aussi où il faut que les artistes arrêtent de dire, si on n'est pas lu, si on n'est pas compris, c'est la faute des médias. Voilà, Ronsard n'avait pas besoin de la télé ou de la radio ou des journaux pour plaire.
Francis?
Certes, si la poésie avait une réputation d'être pourvoyeuse d'audimat, on demanderait plus souvent à des poètes de venir dire leurs poèmes. Le vrai problème, c'est que il ne faut pas attendre quoi que ce soit de ces grands organismes de diffusion, autre chose qu'une récupération de ce qu'ils jugent, eux, pourvoyeurs d'audimat et d'audience. Le problème n'est donc pas là. Le problème est dans une volonté un petit peu floue, mais verticale, qui s'est exprimée pendant des années, de dévaloriser un art au profit d'un autre. Et qu'effectivement, à partir du moment où ces choses sont en vigueur dans la société et qu'il n'y a pas de résistance vraiment opérative qui s'organise, oui, alors On va voir disparaître les séances de récitation des écoles, on va voir disparaître la poésie des programmes scolaires, on va voir... Ces choses-là vont arriver. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop attendre, voyez, du criminel qu'il appelle la police. Voyez. Et en fait, ces grands organismes de diffusion qui commencent à contrôler notre pensée, ils ne la contrôlent pas simplement en nous imposant quelque chose. Ils essayent au départ déjà de savoir comment on fonctionne. Et est-ce que nous, on fonctionne? Est-ce qu'on s'organise vraiment pour fonctionner de manière à défendre la beauté et l'entendement dans la société? C'est une vraie question qu'il faut se poser. L'éducation des enfants, ça commence dans nos familles.
Merci. Autre question? N'hésitez pas. On vous apporte un micro. Devant la fenêtre, de l'autre côté, un petit sprint. 40 mètres, 30, 20, 10, 5. On vous écoute.
Moi, c'était pas vraiment une question, c'était plus une réflexion qui reviendrait un petit peu à ce qui a inauguré le débat dans la mise en perspective entre poésie et philosophie. Moi, j'ai tendance à les mettre les deux sur le même plan, parce que récemment, j'ai découvert des auteurs assez contemporains, je pense à Jacques Pierre ou Georges Bataille, qui, eux, ont tendance, en fait, à, dans la science, mobiliser la poésie pour ce qui, un petit peu, a tendance à déborder le langage, à déborder les outils concrets qu'aurait la philosophie, l'anthropologie ou ce genre de sciences. Et Georges Bataille, par exemple, va s'appuyer sur le Marquis de Sade, Jacques Pierre va tout d'un coup faire référence à Lewis Carroll, pour dire ce que, justement, je pensais généralement l'apanage de la poésie, qui est aussi une science, finalement, un peu dépouillée, encore une fois, d'outils, pour dire ce qui est de l'ordre de l'indicible, de l'émotion ou de l'imaginaire. Et voilà. C'était juste une petite réflexion.
Merci. J'imagine qu'André Comte-Sponville veut réagir.
On peut bien sûr se servir des deux. Et c'est ce que font beaucoup d'intellectuels, y compris moi. Il m'arrive de citer des poètes, mais il faudrait prendre des exemples, si vous voulez. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus sombre que les nuits. Baudelaire, Spleen. Il n'y a pas une idée, il n'y a pas un concept. Et c'est pour ça que c'est tellement beau. Ouais. Le handicap de la philosophie, c'est de faire un détour par l'abstraction. Alors, on en a besoin, je ne vais pas cracher dans la soupe de la philosophie, vous voyez, mais c'est toujours un détour. Ouais. La forgue, alors je citais les vers sur le ton cœur qui bat, mais... Ah, que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne, comme on fut piètre et sans génie. Ça serait de la philo, je lui dirais, mais pourquoi tu dis qu'on est piètre? Tu peux me le prouver? C'est quoi tes arguments? Sans génie, mais c'est vite dit, démontre, argumente. Il n'y a pas à argumenter. Il dit ce qui lui paraît vrai, parce qu'il y a toujours une exemple de poésie, de vérité dans tout grand art, mais il le dit au plus court, non pas par le détour de l'abstraction, mais par le raccourci de l'émotion. Ah, que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne. La rime, c'est formidable quand même. Les poètes ont eu tort, Aragon avait raison, il ne fallait pas renoncer à la rime. Ah, que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne, comme on fut piètre et sans génie. Ça, c'est de la poésie. Inversement, quand j'écris sur le tragique et le dérisoire, quand Camus écrit sur l'absurde, quand voilà, là, on est dans l'abstraction, dans le raisonnement, dans l'argumentation. On en a besoin aussi. Ça me paraît difficile de faire les deux à la fois. Alors, il y a des exceptions. Lucrèce étant une exception notoire, mais entre nous soit dit, c'est un poète de génie. Mais ce qu'il y a d'argumentatif dans son discours pèse souvent et nuit souvent à la beauté poétique. Il y a beaucoup de « itaque, non solum sed etiam », c'est pourquoi, non seulement, mais encore, bon, qui sont la grosse machinerie philosophique. Comme c'est un génie absolu, il reste que c'est très beau, vous voyez, mais il y a très très peu d'exemples de poésie philosophique, parce que c'est presque à l'opposé. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, et je suis d'accord avec vous, qu'on s'intéresse aux deux. Et personnellement, c'est ce que je fais. Ça n'empêche pas qu'un philosophe puisse s'appuyer sur les poètes, je le fais très souvent. Ça n'empêche pas qu'un poète puisse parfois être nourri par les philosophes. Là, on connaît des tas de cas. Mais surtout, la poésie que j'aime, qui est celle justement qui est la plus proche du sentiment, du vécu, de l'immédiateté, et la philosophie que j'aime,
qui doit être rationnelle, rigoureuse, argumentative. Un philosophe, c'est pas un oracle. Oui. Entre la poésie que j'aime et la philosophie que j'aime, il y a quand même, me semble-t-il, une extrême différence, et c'est pour ça qu'on a besoin des deux.
Et si vous permettez, André Comte-Sponville, j'ai envie juste de vous reprendre sur une chose, parce que vous parlez de vérité à propos de poésie. Or, dans votre livre, vous dites « La plupart de nos connaissances sont langagières, mais aucune vérité ne l'est. Ah » Et là, on est pourtant bien dans le langage.
Là, c'est de la métaphysique pure. Alors, c'est un autre sujet.
Qui n'est pas pour déplaire à Francis, à mon avis.
La proposition « La Terre tourne autour du Soleil », c'est une proposition, c'est du langage. D'accord. Depuis quand est-elle vraie? Au moins depuis aussi longtemps que la Terre et le Soleil existent. C'est plus de 5 milliards ou 5 millions d'années, ça n'a pas d'importance à cette échelle-là. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette proposition était vraie des millions d'années avant que le langage existe. Et donc ce qu'il y a de vrai en elle, par définition, n'est pas linguistique. Et c'est pourquoi la vérité est silencieuse. Voilà. Mais bien sûr, vous et moi, pour la dire, pour la penser, on a besoin de mots. Oui. Mais c'est tout à fait autre chose. Mais de ce point de vue, je dirais, vous savez ce que dit René Char, poésie et vérité, nous le savons, sont synonymes. Oui. Ça, je crois que c'est assez vrai. Là. Il y a des poètes qui mentent, mais ça sonne faux. Quand une poésie sonne vraiment juste, c'est qu'il y a une vérité qui se dit, mais par le langage. Mais s'il y a une vérité qui se dit par le langage, c'est qu'il y a, c'est que cette vérité précède le langage. Je crois que la vérité touche au silence, beaucoup plus qu'aux mots. C'est ce que les mystiques ressentent, ce que les contemplatifs ressentent, ce que la méditation confirme. Hein, quand on se tait absolument, aucune vérité n'est supprimée par là. Par définition, la vérité, elle est éternelle. Oui. Il se trouve que nous, on a besoin de mots pour penser la vérité. Pour la conceptualiser, c'est de la philosophie. Pour la dire au plus court, pour la chanter, c'est de la poésie.
Francis ?
Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. Simplement, parce que dans l'échange que nous avons aujourd'hui, finalement, nous parlons de deux disciplines différentes. De deux disciplines différentes que sont la philosophie et la poésie. Mais nous nous intéressons, finalement, à ce qui les relie. Et bien évidemment, ce qui les relie, c'est ces rapports étranges entre la résonance, comme je disais tout à l'heure, et le raisonnement, et les différences, hein, parce que les différences nous relient aussi, hein, parce qu'elles nous installent à notre place, entre le développement d'une pensée philosophique et la synthèse d'une pensée poétique. En cela, je dirais que ce qui est intéressant dans ces deux arts et dans leur mise en harmonie dans la pensée, comme dirait Antonin Artaud, eh bien, ce qui est intéressant, c'est finalement de nous dire qu'est-ce que cette gymnastique du cœur et de l'esprit nous suggère. Et elle, à mon sens, elle peut nous suggérer tout simplement que la philosophie, finalement, qui est l'art de démontrer. Il s'agit de démontrer quelque chose, effectivement, et il faut du temps, et il faut de l'espace, n'est pas opposable à la poésie, qui finalement, dont le souci finalement est de montrer, et pas de démontrer. C'est-à-dire que, voilà, le poète nous montre, le philosophe nous démontre. Et dans ce que le philosophe nous démontre, il y a le caractère contestable de la vérité qui est la sienne. Et dans ce que le poète nous montre, il y a le caractère incontestable du jaillissement de l'émotion. Et si effectivement, comme je le pense aussi, la vérité précède la parole, ce n'est pas parce qu'elle la précède qu'elle n'en a pas besoin. Et nous avons besoin des philosophes, et nous avons besoin des poètes. Une fois que la vérité les a précédés, pour que nous puissions tenter d'y avoir accès. Certes, les mots sont des moyens tout à fait contestables d'y parvenir. L'art réside dans le fait d'y parvenir, pour le philosophe comme pour le poète. Mais par exemple, si je vous dis, il y a, dans ce qu'on dit, il y a rarement ce qu'on veut dire. Si je vous dis, si je vois une personne que je fréquente et je lui dis, tu sais, plus je te fréquente, moins je supporte les cons. Est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant? A priori, ça peut être l'un et ça peut être l'autre. C'est-à-dire, tu es tellement con que plus je te fréquente, moins je supporte les cons. Ou ça veut dire, tu es tellement intelligent que maintenant, depuis que je te connais, je ne supporte plus les cons. Et c'est donc, qu'est-ce qui va transmettre ce que veut dire la personne au moment où elle prononce ces mots? C'est justement tout ce qui ne relève pas des mots. L'état dans lequel il est. L'émotion qu'il a dans la voix, l'expression de son visage, le contexte dans lequel cette chose est dite, tout ce qui n'est pas la parole. C'est pourquoi je chéris à ce point les personnes qui osent affronter la difficulté immense d'affronter la vérité avec les mots. Et c'est en cela que pour moi, le philosophe et le poète sont des êtres qu'il faut aider, à nous aider. Voilà.
Merci. J'ai vu qu'André Comte-Sponville avait sorti son stylo, donc c'est du sérieux.
Oui, vous savez, Heidegger écrivait joliment « Le poète et le philosophe voisinent sur des monts séparés ». Ça, c'est pas mal. Hein. Dieu sait que le personnage d'Heidegger est foncièrement antipathique, mais voilà, le philosophe et le poète voisinent sur des monts séparés. Alors, j'aime beaucoup l'idée de Francis Lalanne. Le poète monte, le philosophe démonte. C'est pas la même chose. Et du même coup, il a raison de dire que le philosophe est forcément contestable, puisqu'il essaye de dire une vérité qui serait universelle, ce qui serait vrai pour moi et donc vrai pour vous. Alors que le poète est par définition incontestable, puisqu'il exprime une émotion. Hein, Baudelaire vous dit, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, vous n'allez pas lui dire, ah non, mais c'est pas un couvercle. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Alors, en même temps, poète ou philosophe, malgré tout, c'est toujours un bonhomme, une bonne femme qui fait son boulot. Et c'est pourquoi je crois qu'il est important de ne pas croire tout à fait les poètes, et de ne pas croire tout à fait les philosophes. Ils font tous un peu semblant. Forcément, mais Baudelaire, il ne vivait pas en alexandrin, si vous voulez, par définition. C'est du travail, comme disait Francis. Tu es toujours plus beau dans l'œuvre. Et les philosophes, ils ne vivent pas dans les concepts. Alors, c'est pourquoi j'aime bien, moi, ceux qui ont travaillé l'entre-deux. Les poètes qui ont un peu dévoilé le derrière de ce qu'il y a sous le capot. Paul Valéry, de ce point de vue, est extraordinaire. D'abord parce qu'il est merveilleusement intelligent, c'est un poète très doué, mais qui explique. Tout ça, c'est quand même fabriqué. Le cimetière marin, c'est superbe, c'est sublime, mais ça lui est pas venu comme ça, donné par les muses. C'est du boulot, c'est fabriqué, avec un peu de ruse, un peu de savoir-faire, un peu d'artifice, parfois. Vous voyez. Et chez les philosophes, Montaigne, évidemment. Parce que Montaigne, au lieu de faire semblant d'être un pur esprit conceptuel, il explique qu'au fond, c'est moi que je peins, comme il dit. Alors, moi, c'est un peu ce que j'essayais de faire là, dans ce livre-ci, pour en dire un mot malgré tout, qui est une autobiographie intellectuelle. Alors, dialoguer, puisque c'est un livre d'entretien, mais oui, une autobiographie intellectuelle, parce que je crois qu'il y a un moment où il faut dire ce qu'il y a sous le capot, c'est-à-dire comment on en est venu là. Montaigne écrit « Je n'enseigne pas, je raconte ». Oui, parce que voilà, quand le philosophe est lucide sur la philosophie, comme il sait qu'en vérité, il ne démontre rien. Il fait semblant de démontrer. Pas différent avec les scientifiques. Les scientifiques démontrent. Les poètes montrent. Le philosophe fait semblant de démontrer. Mais ce n'est pas un reproche, parce que dans le domaine où il travaille, il n'y a pas de démonstration possible. Donc vous n'allez pas me reprocher de ne pas vous démontrer que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de démonstration possible. Et donc on argumente, on fait semblant de démontrer, on essaye de raisonner, et on raisonne en effet, mais sur des sujets où par définition, on n'a pas de savoir. Et donc une fois qu'on a compris ça, ben on comprend qu'enseigner et raconter, au fond, ça va ensemble. Quand Montaigne écrit « Je n'enseigne pas, je raconte », il est beaucoup plus philosophe que ceux qui prétendent enseigner en oubliant de raconter. Et bien voilà, dans ce livre-là, il m'arrive d'enseigner un peu, mais surtout de raconter.
Et vous racontez très bien. On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti, mais si vous en voulez encore, il y a moyen d'en avoir encore. André Comte-Sponville sera dans une demi-heure de l'autre côté de la rue, au casino, pour un entretien croisé avec Éric-Emmanuel Schmitt, 17h30 donc. Francis Lalanne sera à 19h au théâtre des Trois Petits Tours pour une lecture poétique. Francis Lalanne, de mémoire amoureuse, prix de poésie 2015 de La Forêt des Livres, c'est paru chez Fortuna Éditions. Il se fera un plaisir de vous le signer sous la tente et je vous demande de le remercier avec vos applaudissements. André Comte-Sponville, titre emprunté à Montaigne, c'est chose tendre que la vie. Entretien avec François Livonnet, c'est paru chez Albin Michel. Lui, il vous le signera probablement après l'entretien que nous aurons avec Éric-Emmanuel Schmitt. Mais je vais vous demander de remercier André Comte-Sponville avec vos applaudissements.